Oscar Miloche, Contes et fabliaux de la vieille Lituanie, Histoire ésotérique du pêcheur qui visita le ciel. Un seigneur vivait dans un château au bord d'un grand fleuve et dans le voisinage de plusieurs lacs et étangs. Fort friand de poissons, il avait à son service un vieux pêcheur acoquiné par son métier, au point de passer dans sa pirogue, en compagnie de ses hameçons et filets, toutes ses saintes journées, et quelquefois, à la lueur d'un romantique fanal, une grande partie de ses nuits. L'aquatique vieillard se nommait Martin, et justement fier d'un état depuis longtemps héréditaire, dans sa race, ne signait jamais autrement que Martin Pêcheur, les actes qu'on lui soumettait de temps en temps au bailliage ou à la paroisse. Son habileté et sa façonnade, car il se vengeait sur ses semblables des longs silences que lui imposait la fréquentation des poissons, son habileté, dis-je, et sa faconde, lui avaient valu dans tout le pays la renommée d'entretenir un secret commerce avec les esprits qui, sous les formes variées de nains, Nyx et Ondin hantent les humides parages. Aussi bien la table seigneuriale jouissait-elle à 100 lieues à la ronde d'une réputation que ne semblait devoir jamais ternir le malheureux accident de marée que venait de payer de sa vie l'illustre et infortuné Vatel. Mais que l'adage a donc raison qui nous enseigne à ne point marquer de la présomptueuse interjection « hop » le saut qui ne nous a pas fait encore toucher terre de l'autre côté de l'obstacle. Quelque étrange que cela pût paraître, un jour en plein carême, le poisson faut s'accompagner à l'ichtyophage gentilhomme et à ses invités. Et l'absence de ce mets favori se prolongeant pendant 4 tours entiers d'horloge, Martin pêcheur, pour qui l'humide élément et le visage bouffi et couperosé de son maître n'avaient jamais eu que sourire, Martin, l'aventureux nocher d'Anushevichiyai, vit se suspendre sur sa tête la double menace d'une disgrâce imméritée et d'un honteux renvoi. Le front soucieux, la queue basse, car telle était bien l'apparence du filet roulé qu'il traînait négligemment sur le sable, il se dirigea, à l'aube du troisième jour, vers les ondes avaricieuses, avec le vain espoir de les fléchir ou de disparaître à jamais dans leur profondeur. Il jeta le filet, attendit de longues heures, employées en oraisons jaculatoires, le retira enfin et n'y trouva qu'un antique chausson, prise qui fait sourire les bords fleuris de la Seine, mais qui sur les rives brumeuses de la Névésis incite aux plus noires rêveries. Il s'apprêtait déjà à plier armes et bagages et à se retirer sous la tente, lorsqu'une lueur soudaine d'espoir traversa son esprit. Il repoussa donc dans les ondes le filet, et l'instant d'après, comme Vénus se levait à l'horizon et argentait les flots, il le ramenait à la rive avec la proie qu'il renfermait. Une nyx, d'une beauté merveilleuse, vêtue de sa longue chevelure et d'un pagne de nymphéa que ses indiscrets interstices ne faisaient que vaguement ressembler à une ceinture de chasteté. « Salut, impudique vieillard !» chanta la sirène. Et elle ajouta avec un sourire enjoué « Et allez donc, ce n'est pas monsieur mon père. » Fort guilleret, avec rien dans son être qui ne fût à l'opposé exact de ce que nous en avons dit tantôt, Martin courut au manoir. « Ventre saint gris !» s'exclama le vieux seigneur. Son grand-père avait assisté à Paris au couronnement du ver galant. « Pandard du diable !» Elle a été pêchée dans mes eaux. Elle est à moi. Ah, le frétillant brin de fille. Nenni, ripostait l'amoureux Martin. C'est moi qui l'ai trouvée. Elle m'a rendu du premier regard ma belle jeunesse. Elle m'appartient. À preuve qu'elle a elle-même dit « Te gêne donc pas, va, t'es pas mon père. » « Est-ce vrai, mademoiselle ?» interrogea l'honnête gentilhomme. « Cela se pourrait bien, car chez les hommes, comment dirais-je, poissons, les dames se donnent assez aisément au premier venu. » « Hélas, c'est donc partout la même histoire, » soupira le châtelain. « Eh bien, garde-la, mon vieux. Seulement, j'ai un petit service à te demander. Oh, ne crains rien, c'est peu de choses. Au lieu d'aller à la rivière demain, tu iras au ciel chez le bon Saint-Pierre. Tu lui diras comme ça, « Je viens voir feu le père de notre maître pour lui demander où qu'il a caché le magot avant de tourner de l'œil. Si tu reviens avec un heureux message, je t'offre un repas de noces qui te fera voir les 36 000 chandelles. » Le lendemain à l'aube, Martin se mit en route en compagnie d'un jeune berger qui voulait mettre l'occasion à profit pour rendre visite à une sienne tante décédée à la Chandeleur. Surpris par les ténèbres au milieu d'un grand cimetière, nos voyageurs résolurent d'y passer la nuit. Le jeune homme ronfla bientôt avec toute la fougue de son âge. Martin ne dormit que d'un œil. Nymphes et sirènes s'agitaient en son amoureux esprit comme fretin dans les viviers. Un singulier bruissement, comme d'un grouillement de millions de vers, tout à coup le réveille. Il lève la tête. À la place de son malheureux compagnon, il n'aperçoit plus que l'armée de nécrophores qui vient de le dévorer. Médiocrement charmé par ce spectacle, l'amant du lamentin, en se lamentant, détale, aperçoit bientôt le rivage de la mer et, sur un rocher, un tentet sinistre, une baleine si vaste et si vieille que toute une solaie lui avait poussé sur le dos. « Où vas-tu, Martin pêcheur ?» murmura le monstre, dont le gosier ne livre passage qu'à de tout petits goujons. « Je vais au ciel pour y régler une question d'héritage. » Le légataire, d'après le paragraphe 19 de la loi du 17 août 1676, « c'est bon, » interrompit la soleil murmurante. « Grimpe sur mon dos, je vais te porter jusqu'à l'entrée du paradis. Mais tu prieras le bon Dieu de m'envoyer des bûcherons, car une partie de ma crinière demande à être abattue. Et aussi des chasseurs, parce que lièvres et bouquetins font pas mal de dégâts à mon versant gauche. » L'océan est traversé, la porte ovale et solaire du ciel se dessine déjà dans les brumes du matin. Le vieux pêcheur prend congé du gros poisson soleil et dirige ses pas vers le soleil central. Son regard est attiré par deux jeunes filles qui se disputent une pomme d'or. Demandez donc au bon Dieu quand il compte mettre fin à nos contestations. Un peu plus loin, deux vieilles dames, ivres de fureur, puisent chacune à sa fontaine et vont vider leur seau dans celle de l'autre. Elle prie notre voyageur de vouloir bien attirer l'attention de l'Éternel sur la nature indéniablement fastidieuse de leurs travaux. 20 pas encore, et un vieux monsieur qui apprend à parler à un corbeau supplie notre Martin d'obtenir du Tout-Puissant que le vilain volatile couronne enfin ses efforts en prononçant distincts mots, un maître mot de 5 lettres. Naturellement, amour. D'autres suppliants encombrent le chemin. Le pêcheur leur promet tout ce qu'ils veulent en les envoyant au diable. Il ne savait pas, le malheureux, que le plus grand bonheur de l'ancien des jours et d'être importuné. Enfin, à 1 kilomètre environ de la sublime porte, il est interpellé du fond d'un rutilant carrosse par un seigneur qui lui tend un billet. Au tournant de la route, tu apercevras une autre berline. L'un de ses chevaux sera blanc. Tu lui mettras le poulet que voici dans le naseau droit. Martin poursuit son pieux pèlerinage, rencontre le deuxième véhicule et fait ce que lui avait demandé l'occupant du premier. Le cheval, aussitôt urinant et agitant sa crinière, hennit noblement. Le magot se trouve dans une marmite de fer enterrée sous le seuil de la cave. Maître du grand secret, le pêcheur se demandait à présent s'il valait vraiment la peine de continuer son voyage. Mais il se rappela ses innombrables promesses et voulut, en honnête homme qu'il était, en avoir le cœur net. Il frappa donc à la porte séraphique, fut admis et finit par recevoir de Dieu, obsédé de millions de demandes analogues, les réponses suivantes. Rapport aux deux jeunesses et à leurs pommes, rappelle-leur donc ce qui s'est passé en l'an 1 du monde et leur conseille d'apprendre à faire la cuisine. Pour ce qui est des vieilles dames, tu leur diras qu'elles expient le péché de médisance et de babillage et que ce n'est pas ma faute si leurs fontaines sont intarissables, comme leur raconta à eux-mêmes. Ah, quel métier que le mien! Attends un peu. Il reste le vieux monsieur au corbeau. Eh bien, tu lui lanceras simplement le mot qu'il n'entendra jamais du bec de son affreux volatile. Et c'est sur ce mot éternel et plein de sagesse, de 5 lettres, que vous voudrez bien nous permettre, aimable lecteur, d'arrêter notre récit.